Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai en fait je vais vous faire mes prédictions sur le marketing et la vente pour 2017. En fait, moi je fais un constat que je vois tous les jours, hein. La vente et le marketing ont plus évolué durant les 5 dernières années que durant les 20 années précédentes. En fait, moi je le vois tous les jours, hein. La digitalisation des outils marketing, le fait en fait que les outils marketing et commerciaux se démocratisent, que la manière de travailler d'un commercial ou d'un marketeur n'est plus du tout la même, que des outils comme le smartphone sont venus envahir notre quotidien. Tout cela en fait a vraiment radicalement changé notre manière de travailler et moi je dis toujours, le pire ce n'est pas fini. Cet après-midi en fait j'étais en train de préparer une conférence que je ferai le 19 janvier et c'est vrai qu'on était en train de lister les 5, 6 grosses évolutions et on se disait mais non mais c'est que le début, l'automatisation est au début, l'humanisation des conversations c'est qu'au début, tout ce qui est optimisation, ROI, tout cela en fait est vraiment au début du début et notre métier va vraiment fortement évoluer dans les mois et années à venir. Donc en fait c'est un petit peu comme une révolution industrielle, hein, ça va secouer, il y aura pas mal de gens qui vont être touchés par cela. Donc moi ce que je vous propose c'est là, c'est d'essayer d'anticiper un petit peu et de voir ce qui va se passer dans les 2 années à venir avec 7 prédictions qui vont impacter votre manière de faire du business en 2017 et aussi en 2018 avec un plan d'action à chaque fois pour gérer au mieux ces transitions. Donc à chaque fois, je mettrai une prédiction et derrière un petit plan d'action. Alors ma prédiction numéro 1, elle est assez évidente, mais elle aura comme des impacts, c'est tout simplement que le téléphone fixe est mort pour moi. Vive le mobile et les médias de communication alternatifs. En fait, c'est vraiment simple. Moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai voulu refaire des cartes de visite, je me suis dit, mais non, j'ai pas besoin de mettre mon téléphone fixe. Donc, en fait, je ne mets plus mon téléphone fixe sur mes cartes de visite. Et je vois que mes collègues, maintenant, quand ils vont faire de la prospection dans un bureau, ils prennent plus le téléphone fixe qui est dans le bureau ou dans la salle de réunion. Qu'est-ce qu'ils font, tout simplement? Ils prennent leur numéro de portable et c'est parti. Et pareil, quand on fait une visioconférence, on s'appelle plus au téléphone. Avec des conférences téléphoniques, des choses comme ça, on utilise des solutions de web conférence qui intègrent aussi du téléphone. Donc pour moi, le téléphone fixe est mort à titre personnel. Il sera uniquement valable dans tout ce qui est call center pour en fait appeler les entreprises. Ça, on aura toujours besoin d'un numéro de téléphone fixe et ça, c'est vrai avec des numéros qui sont souvent gratuits. Et au contraire, pour les individuels, hein, les personnes, les salariés, les collaborateurs, les freelances, etc., et tout simplement, on va avoir les smartphones qui vont tout simplement être le moyen le plus utilisé. Et ça, en fait, c'est lié au fait qu'on a des forfaits téléphoniques illimités, que le portable est devenu beaucoup plus utilisé que le fixe, qu'on l'a tout le temps. À chaque fois, moi je dis, demandez-vous comme preuve combien de numéros de téléphone vous connaissez par cœur, combien de fixes vous avez appelé dernièrement, et là vous verrez que vous avez surtout envoyé des SMS, vous avez appelé sur des portables, et même vous connaissez pas un seul numéro fixe à part celui peut-être de vos parents et celui de votre domicile, et encore. Moi je vous dirais que je connais plus beaucoup de numéros de téléphone. Alors, la réponse pour moi est vraiment sans appel. Il est vraiment important de se dire, ok, il faut prendre en compte la mobilité. Hein. À peu près, il y a grosso modo 80% des détenteurs qui sont intéressés par la réception de SMS de la part des entreprises. 90% des SMS sont lus en moins de 3 minutes. Et 80% des réponses d'un envoi par SMS est envoyé dans l'heure. Ça, c'est une étude qui était menée chez Eloquent. Hein. Donc, en fait, on voit bien que c'est indispensable les médias sociaux, la communication par mobile. La consultation aussi des messages sur mobile. Donc l'email reste encore la clé de communication, même si on a annoncé que 1000 fois l'email était mort, l'email reste le premier. Alors certes, il y a des médias alternatifs, hein, on le connaît tous, hein, il y a des outils comme WhatsApp, comme WeChat, etc., etc. Mais c'est vraiment encore le début. Pour l'instant, en fait, l'email reste comme le numéro 1 avec la coordonnée la plus simple à utiliser. Alors ça veut pas dire que on va laisser tomber le téléphone avec les SMS, ça veut pas dire qu'on laisse le papier, mais en fait le smartphone devient vraiment l'outil principal de communication et de plus en plus de sociétés sont en train de réfléchir à des méthodes pour justement mieux communiquer avec les portables, puisqu'en fait sur le portable, qu'est-ce qui se passe? On filtre en fait les appels. Moi je le vois, il y a des gens qui m'appellent et ben je sais pas qui c'est, ou tout simplement ça m'arrive souvent de mettre le téléphone sur silencieux, laisser les gens laisser des messages sur le répondeur, et j'y réponds que quelques jours plus tard, hein, ou quelques jours. Quelques minutes plus tard plutôt, je laisse les gens sur le répondeur et je rappelle plus tard. En fait, ça me permet de filtrer, ça me permet de travailler sur des plages de travail continues et pas de déranger sans cesse. Donc ça, c'est vraiment bien avec le portable et ben, les opérateurs, les entreprises de prospection, etc. doivent le prendre en compte. Alors, dans le plan d'action que je vais vous détailler tout à l'heure, par exemple, il y a l'utilisation de ce qu'on appelle les messages vocaux. Qu'est-ce qu'un message vocal ? En fait, c'est pas juste un message qu'on laisse sur votre répondeur de manière classique. C'est tout simplement des outils maintenant qui sont disponibles chez certains opérateurs qui permettent en fait à des centres d'appel de pouvoir laisser un message sans passer par une sonnerie de téléphone. C'est-à-dire que directement, hop, le message va sur le répondeur et ensuite ben, la personne reçoit un SMS lui indiquant bah, tiens, vous avez reçu un message de manière classique. Et ça, c'est un outil intéressant parce que ça permet de faire face à la saturation des communications et ça permet de communiquer de manière asynchrone, un petit peu comme une alternative à l'email. D'autres choses existent également, hein. Il y a des outils comme par exemple l'IP tracking, le tracking en fait de l'adresse IP de la machine, de l'ordinateur en fait de la personne qui visite votre site internet. Et ça, c'est valable en B2B, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire tiens, là, il y a la société Tartampion qui a visité le site internet. Ensuite, après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va aller visiter sur LinkedIn qui sont les contacts de cette entreprise et après, donc, on va pouvoir les identifier. Ça, c'est le premier truc. Bien entendu, il existe des solutions clés en main qui permettent de le faire. Après, le retargeting également sur Facebook et AdWords qui permet en fait d'être entre guillemets un filet de sécurité. En fait, les personnes qui ont visité votre site internet et qui ont abandonné la visite, hein, en particulier s'ils viennent publicité, etc., etc., ils restent pas forcément chez vous, ils repartent après derrière. Donc en fait, c'est intéressant de les retargeter, par exemple avec une publicité en Facebook Ads sur la sidebar, qui coûte moins cher que dans le flux de news classique sur Facebook et qui permet d'aller pousser de l'information. Ça, c'est pas mal en retargeting, ça coûte moins cher et ça permet d'afficher votre publicité. Quelqu'un est venu sur votre site internet, il a été sur la page d'atterrissage mais il n'a pas commandé, ben vous le retargetez avec donc cette annonce. Vous pouvez le faire également avec AdWords, hein, c'est possible. Vous pouvez par exemple, avec AdWords aussi, on peut s'amuser aussi à faire du retargeting, c'est-à-dire qu'on va importer une liste d'emails, par exemple les non-ouvreurs de son de ses newsletters, les gens qui sont désabonnés, et vous allez en fait les retargeter sur les médias sociaux ou sur les forums, etc., etc. L'autre outil que j'utilise aussi, c'est la notification via les navigateurs, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir, via un outil comme PushCrew ou des choses comme ça, vous allez pouvoir en fait faire en sorte que quand les gens vont quitter votre site internet ou votre blog, il va y avoir un petit message qui dit je vous propose de vous tenir au courant sur les dernières actualités, etc., etc. Donc ça, c'est assez utile. Je le fais sur Conseil Marketing et ça permet d'avoir quelques abonnés en plus. Et après, le taux de conversion est aux alentours de 5-10%, donc c'est quand même pas mal. Alors le plan d'action, je commence un petit peu à le détailler là, mais c'est simple, c'est intégrer le SMS dans vos stratégies marketing. Même si vous êtes en B2B, même si vous considérez que vous êtes que vous utilisez un média assez intrusif, il faut l'intégrer. C'est un média vraiment hyper puissant pour tout ce qui est promotion, pour lancer des invitations pour un événement, donc ça c'est vraiment essentiel. Donc commencez déjà par réfléchir à comment vous pouvez récolter des numéros de portable. Par exemple un jeu concours, vous dites voilà, remplissez vos coordonnées pour participer au tirage au sort, blablabla. Ou alors organiser un concours, donner les coordonnées des décideurs dans votre entreprise et si plus remplissez de coordonnées, plus en fait vous êtes chance de gagner. Ou alors vous faites un simple email disant voilà, nous cherchons à mettre à jour la base de données, vérifiez que votre adresse email, que le numéro de téléphone de votre directeur, votre numéro de téléphone à vous est correct pour que nous puissions vous envoyer des informations techniques, blablabla. Donc ça marche pas mal. N'oubliez pas aussi d'inclure l'autorisation d'utiliser les SMS dans vos CGV, CGU, etc., etc. C'est comme ça en fait vous aurez le droit d'envoyer des communications. Ensuite définissez le cadre de communication que vous allez faire, hein. Par exemple vous dites voilà, moi j'envoie un SMS par an, un SMS par trimestre, et le plan de communication qui va être lié à ça. Voilà. La deuxième chose, j'en ai parlé, c'est la notification via le navigateur, qui est un outil assez intéressant si vous faites des actualités régulières, si vous avez un blog. À ce moment-là, en fait, ça vient en complément de la newsletter, parce qu'en fait, on sera plus dans l'événementiel en disant, tiens, voilà, on va faire un super article. On a une promotion, on a un bon d'achat, on a un web séminaire, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez sympa en complément pour donner une notion d'immédiateté. Allez-y, c'est maintenant, il faut y aller. C'est pas fait pour remplacer l'email, c'est un truc complémentaire. Voilà, et l'IP tracking, hein, vous allez, si vous êtes en B2B, ben vous pouvez identifier qui a visité votre site internet avec des solutions comme GetPlus, Azalid, etc., etc. Ou alors, vous pouvez utiliser après des bases de données comme Sparklane, hein, qui est mon partenaire, hein, Spark, S-P-A-R-K-L-A-N-E, Sparklane, qui est une méga base de données qui permet en fait de savoir qui va visiter votre site internet. Le dernier point, encore une fois, dans les canaux de communication alternatifs, n'oubliez pas le chat proactif, hein. C'est vraiment intéressant pour rentrer en contact avec les gens. Moi, j'utilise par exemple ClickDesk, mais il y a par exemple des outils comme Eloquent qui sont assez efficaces là-dessus. Hein. Voilà. Là, c'était la première prédiction. La deuxième prédiction, c'est tout simplement vos clients ne sont plus acquis pour la vie. Ça, c'est vraiment vraiment important. Il faut vraiment se dire que nos clients ne sont plus captifs, hein. Ils peuvent très bien être facilement détectés par la concurrence. Donc il faut vraiment penser expérience client et relation à long terme. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, moi je le vois, hein, avec les médias sociaux et le web, il n'a jamais été aussi simple d'aller séduire les clients des concurrents. Justement, dans le blog de Sparklane, hein, Sparklane, si vous parlez à la française, j'ai fait un article avec 10 techniques pour voler légalement les clients de ses concurrents. Je vous les rappelle, enfin quelques-uns en tout cas, c'est d'aller identifier les témoignages clients qui sont faits sur le site internet, c'est d'aller retargeter ou targeter tout simplement avec du Facebook Ads les fans d'une page Facebook. C'est par exemple aussi aller détecter sur LinkedIn, sur les groupes ou sur les pages, surtout sur les groupes, pour savoir qui est membre d'un groupe par exemple d'utilisateurs. C'est aller regarder sur les médias sociaux qui sont, par exemple sur Twitter, d'aller regarder qui sont les pages, qui sont les suiveurs en fait d'un compte Twitter. Bref, je vous ai donné une dizaine de techniques qui marchent, qui fonctionnent et qui permettent d'aller séduire les clients de ses concurrents. Donc ce qui veut dire que vos clients ils sont plus captifs, hein, ils sont visibles sur internet, et quelqu'un qui veut vraiment aller chasser vos concurrents, bah, il peut en prendre une partie. Alors je dis pas qu'il va prendre 100% de votre base client, mais il va quand même pouvoir les repérer. Alors après, vous avez deux possibilités, hein. La première, c'est vous dire, ben voilà, je me referme sur moi-même, je vais planquer mes clients, je fais pas de témoignages, je fais pas de création de communauté, je fais pas de groupe, je mets pas d'émotion, je partage pas sur Facebook, je fais rien du tout. Mais à ce moment-là, on va vraiment rester sur un esprit communautaire, on va essayer de lier ses clients avec des contrats à long terme. Bref, on est vraiment totalement à l'inverse de ce qui se passe actuellement, parce qu'une marque veut comprendre pourquoi elle reste, elle veut communiquer, elle veut avoir des informations. Donc tout simplement, cette position-là, elle n'est pas tenable si on veut croître. C'est bien si on essaie un peu de se recentrer sur soi-même et qu'on a un objectif court-termiste, mais sur le long terme, au contraire, il faut communiquer, il faut accepter en fait que ses clients soient visibles. En revanche, en fait, il faut leur donner une bonne raison de rester chez vous. Et ça, c'est vraiment le plus important. Parce que il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là. On ne peut plus vendre de mauvais produits. Il faut en plus donner une bonne raison de rester à ses clients. C'est-à-dire qu'avant, quand il n'y avait pas de choix, qu'il n'y avait pas de communication, qu'il n'y avait pas de médias sociaux, qu'il n'y avait pas Internet, bah, les gens n'avaient pas le choix, hein. Ils allaient acheter leurs produits à la boutique du coin, ou ils allaient chercher un petit peu plus loin à la ville du coin, mais ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix. Sur Internet, c'est très simple de zapper, de changer, de comparer, et la concurrence, elle est mondialisée. Moi, à chaque fois, je dis, hein, regardez ce qu'ont fait Uber et Airbnb. Il y avait des clients, mais ils n'étaient pas mécontents, hein. Moi je prends toujours les taxis classiques, hein. Je prends du taxi G7 à Paris, etc. De temps en temps je prends du Uber, mais pas plus souvent que ça. Je vais aussi dans beaucoup d'hôtels, hein, beaucoup d'hôtels, et pourtant en même temps je prends du Airbnb. Parce que tout simplement, je suis pas fondamentalement insatisfait ou mécontent des taxis, des hôteliers, mais tout simplement parce que j'ai pas de raison d'aller prendre un taxi ou d'aller sur un hôtel, parce que finalement, entre une chambre d'hôtel et une chambre Airbnb, il y a relativement petite différence ou de la différence de prix qui fait que finalement j'accepte d'avoir des conditions de logement dégradées, ou alors pour le même prix j'ai quelque chose de mieux. Donc en fait il faut donner une bonne raison aux clients de rester. Donc il faut véritablement s'assurer que vos clients sont d'une part 1. satisfaits de leurs produits. Ça c'est vraiment important, parce que si vous répondez pas aux besoins initiaux et fondamentaux du client, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc demandez-vous déjà et demandez-leur s'ils sont satisfaits. Pour ça, vous utilisez des solutions d'enquête, comme par exemple Eloquent, qui permet de faire des enquêtes de satisfaction par email, par SMS, par message, etc., etc. Messages vocaux. La deuxième chose, c'est d'aller améliorer l'expérience client de vos produits. C'est-à-dire qu'on va pas juste se contenter de faire le service minimum, mais on va apporter un petit plus. On va aller faire un petit truc qui vont dire « Ah ouais, c'est vachement sympa, ils ont pensé à moi, etc. » Et alors, après, éventuellement, une fois qu'on a fait le basique, une fois qu'on a fait vraiment une réponse à ce que le client attend, on va aller au-delà de ses attentes. C'est ce qu'on appelle l'expérience client extraordinaire. On va vraiment lui dire waouh, c'est vrai. Et le client va se dire vraiment c'est génial. C'est un petit peu ce qu'on avait auparavant avec l'iPhone. L'iPhone au départ, c'était tout simplement un super téléphone, et quand on voyait le téléphone par rapport aux autres, on disait waouh, c'est extraordinaire. Ils ont pensé à tout. Le manuel est vachement simple, la prise en main est vachement simple. Donc déjà, 1. Répondre au service minimum, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, améliorer l'expérience pour avoir un bouche-à-oreille positif. 3. Tout simplement aller au-delà des attentes et créer des clients ambassadeurs qui vont dire ouais c'est génial pour ce truc là. Puis après créer des fans qui vont vraiment être complètement dingues de votre produit, comme par exemple les fans d'Harley Davidson ou encore quelques fans d'Apple. Le plan d'action il est simple. Dès maintenant, lancer une enquête de satisfaction. Alors, il y a des enquêtes de satisfaction de type NPS, Net Promoter Score. C'est tout simplement la mesure du bouche-à-oreille. C'est la réponse à la question « Est-ce que vous recommanderiez nos produits ou nos services à l'une de vos connaissances avec une note de 0 à 10 hein, ?» tout simplement. Donc là, c'est la mesure du bouche-à-oreille. Est-ce que nos produits sont suffisamment bien pour que vous le recommandiez ? Est-ce que vous faites confiance ? Etc. etc. Deuxième option, commencez déjà par vérifier que vos clients sont satisfaits. C'est ce qu'on appelle l'indicateur CSAT, Customer Satisfaction. C'est tout simplement l'adéquation du produit avec les attentes du consommateur. La question est simple, c'est êtes-vous satisfait de nos produits et services ? En fait, ces questions-là permettent de savoir si, ok, on répond aux besoins. Le CSAT, généralement, c'est une note de 1 à 5. Est-ce que vous êtes très satisfait, pas satisfait, moyennement satisfait, pas du tout satisfait ? Ou alors ça peut être une étoile avec un baromètre en étoile. Est-ce que je suis 1, une étoile, ou 5 étoiles, ou 4 étoiles. Voilà. Après, toujours compléter ces questionnaires, cette question qui peut être simple, une seule question, et souvent si vous voulez avoir un bon taux de réponse, indiquez tout simplement dans votre email, est-ce que vous avez une minute à me consacrer ? Vous mettez ça dans l'objet et tout simplement les gens vont dire bah oui j'ai une minute à vous consacrer, il n'y a pas de souci. Et mettre en fait un petit champ commentaire en plus de la petite étoile ou du score de 1 à 10. Et à cela le client doit se défouler, doit indiquer ses remarques, ses suggestions, ses avis négatifs, ses avis positifs, pourquoi il est content ou pas. Bref, là vous allez détecter ce qu'on appelle les ultra détracteurs, c'est en fait des gens qui sont pas du tout contents de votre produit et qui ont une très forte probabilité de vous quitter. Donc ça en fait ça vous allez détecter les gens qui sont vraiment insatisfaits, note de 0 à on va dire à 2-3 pour le NPS, ou les gens qui ont mis une note de 1 pour le CSAT, 1 sur 5 pour le CSAT. Et là tout simplement vous allez pouvoir faire du curatif, voir qu'est-ce qui s'est mal passé, essayer de corriger les choses, voire corriger votre produit. L'autre chose, en fait, c'est de voir après les insatisfactions, qu'est-ce qui se passe mal. Les étoiles détracteurs, c'est des gens qui sont très très mécontents, donc ok, en priorité. Ensuite, voir qu'est-ce qui se passe mal, et ensuite, aller identifier les gens qui ont mis une note de 9 à 10, et ça, c'est les gens qui sont ambassadeurs, que vous pouvez contacter pour avoir un témoignage client, etc., etc. Ensuite, là, on a vu l'action juste une fois, là, on va mesurer la satisfaction. Mais après, en fait, il faut faire une enquête de satisfaction régulière, au moins une fois par an, ou au moins après chaque interaction clé, par exemple un renouvellement, la visite en boutique ou n'importe quoi. Vous faites tout simplement une étude de satisfaction pour savoir est-ce qu'on a répondu à vos attentes. Voilà, cette étude peut se faire par SMS, elle peut se faire par email, etc., etc., etc. Voilà, donc j'arrive à la prédiction numéro 3 et qui est un petit peu liée à la prédiction numéro 1, c'est le mobile va devenir incontournable. Alors, à chaque fois, chaque année, on dit l'année 2000X va être l'année du mobile, mais ça devient vraiment une vérité. Bref, les statistiques mondiales concernant le trafic montrent que le trafic mobile dépasse celui du web. Alors ça, c'est à chaque fois des trafics qu'on a vu sur StatCounter, et ça a fait un petit peu la une des journaux. Ok, certes, c'est au niveau mondial, mais si on s'intéresse à la France, on voit encore que le trafic web est largement au-dessus du trafic mobile. Hein. Grosso modo, on va dire que 65% du trafic web en France est encore sur PC. Donc le PC, c'est encore la majorité, les deux tiers du trafic en France, même s'il régresse de 10% par an, donc c'est quand même assez important, il y a vraiment une vraie tendance de fond, alors que le mobile, lui, progresse de 30% par an. Et ce qui est, quand je parle de mobile smartphone, puisque le modèle tablette, en fait, ça bouge pas. On voit bien qu'on arrive à un taux d'équipement qui est stable. On voit bien, en fait, qu'il n'y a pas de transfert massif du trafic PC vers du trafic tablette. On est vraiment, encore une fois, dans un trafic qui est très mobile, smartphone, et pas tablette. Donc il y a vraiment une partie du trafic du PC qui se déverse vers le smartphone. Chose assez surprenante, il n'y aura pas de révolution app mobile. Il y a 5 ans ou 4 ans, voire même 2 ans, on parlait les apps mobiles, il faut une app pour votre société, etc. etc. Or, en fait, c'est faux. C'est faux, pourquoi ? Parce que généralement, les gens utilisent moins d'une dizaine d'apps par jour, hein, Facebook, email, Twitter, RATP si vous êtes à Paris, Taxi G7 ou Uber, etc. etc. Donc, grosso modo, les gens n'ont plus la folie des apps. Des apps, en fait, ça y est, on est passé à l'âge de la raison, l'âge de la maturité. Tout simplement, en fait, maintenant, on utilise assez peu d'apps, et donc il faut plutôt penser au mode responsif pour son site, au mode responsif pour ses emails, et au mode responsif, bien sûr, pour ses messages de manière générale par SMS ou par téléphone, etc. etc. Donc, il faut pas forcément penser mobile first, mobile en premier, parce que tout simplement le trafic est encore très 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 Windows, et surtout, en fait, y a plein de choses qui peuvent se faire que sur PC. On trie généralement ses emails sur le mobile, et après on va les regarder sur un PC. Mais on voit bien que la population qui est jeune, qui arrive bientôt sur le marché du travail, etc., est accro au mobile, et donc, en fait, il faut vraiment penser mobile. Ensuite, il faut se dire aussi que les usages sur mobile ne sont pas les mêmes que sur PC. Hein. 80% des gens consultent leur smartphone dès leur réveil, mais en fait, les emails ne sont pas lus tous sur le mobile, ils sont plutôt triés. Ça, je garde, ça, je garde pas, et en fait, ensuite, je fais les choses à la maison. Voilà. Donc, votre plan d'action est simple, hein. Vérifiez que votre plan de communication, site internet, blog, emailing, etc., ont un bon rendu sur smartphone, hein, ils sont responsives, et faites un test, c'est simple, hein, vous regardez sur votre smartphone ou sur les smartphones les plus courants du marché, hein, comment ça se passe, sachant que les résolutions, hein, qui sont comme les plus utilisées, c'est comme les cross résolution minimum 360x640, hein, c'est vraiment le minimum, donc 640 c'est quand même une belle résolution en longueur, c'est grosso modo quasiment 40% du marché. Donc si vous avez cette résolution là en smartphone, c'est quand même pas mal. Regardez ce que ça donne sur un smartphone un petit peu moderne. Ensuite, pensez à l'utilisation du mobile pour vos publicités, vos emailing. C'est très difficile de remplir des formulaires, difficile de lire beaucoup de textes, regarder de longues vidéos. Donc en fait, par exemple sur Facebook Ads, faites des publicités qui soient très visuelles, supprimez systématiquement l'affichage publicitaire éventuellement de vos publicités avec formulaire sur smartphone. Même moi, je vous recommande, hein, personnellement, de ne pas utiliser, si vous êtes en B2B par exemple, hein, de ne pas utiliser la publicité Facebook Ads sur mobile. Moi, tous mes tests que j'ai fait, c'était un échec total, parce qu'en fait, on sait très bien que les gens, ils vont pas remplir un formulaire ou ils vont pas acheter un produit en mobilité, sauf si ce sont des cas exceptionnels, mais en B2B c'est pas du tout le cas. Voilà. Et le dernier point, si vous me connaissez, vous savez en fait que j'ai un podcast, hein, depuis un certain temps. Donc ne négligez pas le retour des podcasts. Y a beaucoup de gens, en fait, qui écoutent les podcasts dans les transports, sur la route, dans leur voiture, etc. etc. Donc n'hésitez pas à penser multicanal et à ajouter une nouvelle corde à votre média de communication, en particulier avec des podcasts. Moi, j'utilise Audioboom, mais vous pouvez utiliser SoundCloud aussi, qui est pas mal. Voilà. Donc ça, c'était les trois premières prédictions que j'ai réalisé sur le marketing et la vente d'ici 2017-2018. Vous pouvez retrouver l'article complet sur le blog de Sparklane. Donc vous tapez Sparklane, sparklane-group.com. Et là, en fait, vous allez sur le blog et vous pouvez retrouver mes 3 articles sur mes 7 prédictions marketing et vente qui vont impacter votre business en 2017 et en 2018. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie.